Agora, le magazine de la rédaction en partenariat avec Maxent, présenté par Sophie Deschamps. Bonjour Sophie.
Bonjour Waïd, bonjour à tous, bonjour Frédéric Sabourin de Maxent. Au lendemain de la journée internationale pour les droits des femmes, notre invitée est Fanny Pidou, conseillère régionale déléguée à l'égalité femmes-hommes, mais aussi à la lutte contre les discriminations et les handicaps pour le Centre Val-de-Loire. Bonjour. Fanny Pidou, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de parler de l'actualité riche concernant l'égalité femmes-hommes, on va faire plus ample connaissance avec vous. Vous avez 33 ans, vous êtes née dans le Haut-Jura et vous êtes issue d'une famille de militaires. Vous avez passé donc votre enfance à Saint-Germain-en-Montagne, puis Évreux, aux Abîmes et à Orléans depuis 1991. Orléans qui ne devait être au départ qu'une étape et puis vous y êtes plus, vous êtes toujours là. À la faculté d'Orléans, justement, vous avez obtenu un master de droit social et de gestion des ressources humaines, avec le souhait de mettre l'humain au cœur de votre pratique, ce que vous faites dans un organisme de formation professionnelle. Vous aimez le contact avec les citoyens, les échanges et les débats. Donc, passionnée de politique, enfant, vous vouliez devenir présidente de la République.
Ah, c'est peut-être pas trop tard. Hein.
Voilà.
Vous avez encore de la marge.
J'ai réévalué, en fait, mes ambitions.
Ah non, attendez. On en reparlera.
Alors, plus sérieusement, c'est la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, ainsi que le contrat première embauche qui ont été pour vous des déclics et l'occasion de vos premiers engagements en politique. À gauche, en 2008, vous rejoignez l'équipe de Jean-Pierre Sueur aux élections municipales. Suite à la défaite, vous vous engagez véritablement au sein du Parti socialiste. En 2010, vous êtes candidate au régional à côté de François Bonneau, mais vous n'êtes pas élue. Il vous faudra attendre décembre 2015 où vous devenez conseillère régionale déléguée, on vient de le dire, à l'égalité femmes-hommes, mais aussi à la lutte contre les discriminations et le handicap. Les valeurs d'égalité et de justice sont donc pour vous le socle d'une démocratie apaisée, on y reviendra. Vous pratiquez le basket à Orléans Basket, désormais Orléans Loire et Basket depuis 1995 avec une infidélité de 4 ans. Joueuse ou arbitre ou encore entraîneur, vous êtes pleinement engagée dans ce sport. Enfin, vous êtes mariée, maman de 2 enfants et presque de 3, et à ce titre représentante de parents d'élèves. Voilà pour le portrait. C'est à vous Frédéric Sabourin pour la première question.
Quelle biographie. Bonjour.
Fin de vie.
Bah écoutez, voilà, vous n'avez que 33 ans. Fanny Pidou, à Conflans-Sainte-Honorine, hier, le 8 mars, il y avait une distribution de fleurs à l'entrée des transports en commun, une initiative prise par l'équipe municipale et le maire Laurent Brosse. Dans le sud-est, la SNCF avait l'intention, ça a été annulé au dernier moment, vous allez voir pourquoi, de distribuer des chocolats aux femmes, hier, journée internationale du droit des femmes, mais seulement celles qui prenaient la première classe. Alors c'était quand même un petit peu discriminant, déjà par rapport aux hommes et par rapport à ceux qui prennent la deuxième classe. Ces deux anecdotes, juste pour rappeler. Alors d'abord, un, on n'a plus le droit d'offrir des fleurs aux femmes. Question. Sans que ça passe pour de la muflerie ou je ne sais pas quoi, alors que ça peut être quand même offert de bon cœur. Et deuxièmement, est-ce que cette journée internationale du droit des femmes a encore un sens malgré tout? Est-ce que ce n'est pas l'occasion, encore une fois, de mettre l'accent sur des discriminations tout le reste de l'année? Est-ce que ce n'est pas finalement toute l'année qu'il faudrait faire en sorte que les droits des femmes, au point de vue international, s'améliorent?
Alors, sur la question des fleurs, pour répondre rapidement, il y a un magasin de livraison de fleurs qui a fait une publicité qui a dit Journée internationale des droits des femmes, qui a souligné droit, a dit surtout ne leur offrez pas de fleurs, elles veulent des droits. Donc, je me dis, c'est la meilleure réponse.
C'est pas mal.
C'est une des plus grandes enseignes sur la livraison des fleurs. Je me suis dit, voilà, il y en a qui ont compris, d'autres qui n'ont pas encore compris le sens. Donc, s'il y avait la pertinence de cette journée, effectivement, il y a encore une pertinence à avoir, parce que certains n'ont pas compris le sens de cette journée. Et tout au long de cette journée, on a eu plusieurs échanges, plusieurs débats. Il y a des personnes qui nous disent, vous savez, regardez le verre à moitié. Comme il s'est bien rempli par rapport à il y a 50 ans.
Ce qui n'est pas faux, objectivement.
Pas faux. Mais après, j'ai envie de lui répondre, est-ce que vous accepteriez que votre fille soit moins bien payée que votre fils pour le même travail? Et là, je pense que n'importe quel parent normalement constitué dirait non, je n'accepterai pas ça. Donc finalement, l'égalité des droits dans le droit, finalement, on l'a acquis, mais il n'est pas encore réel. Donc c'est là le sens de ces journées. C'est de dire, voilà, le droit, on l'a, par contre, il faut le prendre.
Alors là, vous avez mis directement les pieds dans le plat avec cette question de l'égalité, ou on devrait dire plutôt l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, globalement, les femmes restent moins bien payées que les hommes à 25%. C'est énorme, même s'il y a des explications. Il reste quand même un seuil de 10%, on a envie de dire, incompressible et injustifié. Pourtant, des lois existent. Fanny Pidou, c'est ce que vous avez rappelé hier.
J'ai rappelé hier, depuis les années 80, il y a eu des lois pour dire qu'on n'a pas le droit de payer une femme moins bien qu'un homme.
À travail égal. À responsabilité égale, expérience égale, diplôme égal.
Diplôme égal, la jurisprudence elle est vraiment très claire là-dessus. Il y a aussi une loi en 2014 qui a rappelé sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Toutes ces lois, le panel juridique, il existe. Sauf que les sanctions, elles existent déjà, parce que j'entends qu'on va sanctionner en 2022, mais les sanctions, elles existent déjà. On n'a pas le droit de discriminer quelqu'un en fonction de son sexe. Et pour autant, en fait, les femmes, elles ne vont pas aussi revendiquer ce droit. Elles ne vont pas écrire à leur structure « bah non, je devrais être mieux payée ». Parce qu'elles ont aussi un peu peur dans le contexte d'être stigmatisées.
Licenciées parfois.
Parfois, parce qu'en fait, quand on est un peu trop revendicatif, ça passe pas.
Les grandes gueules,
toujours.
Ça passe pas tellement. Ouais.
Non, ça marche pas. Non.
Donc, comme aux femmes d'ailleurs.
Hein, oui, mais du coup, quand on revendique en plus dans le contexte, on leur dira « mais va voir ailleurs si t'es pas contente ».
Alors justement, si on regarde ailleurs, on voit que la France, elle est très très mal classée. Hein. C'est le Forum économique mondial qui le dit. On est 129e sur 144, justement, pour cette question d'inégalité de salaire homme-femme. C'est la honte.
C'est la honte. Et en plus, je me dis 129e sur 144. Je voudrais savoir c'est quoi les 13 pays qui sont derrière nous. Et j'imagine à peu près les 128 autres pays qui sont derrière nous et devant nous. Et je me dis, on nous dit qu'on a un pays moderne, une civilisation, cinquième puissance mondiale. Mais sur quels critères, en fait, on établit ce fait qu'on soit la cinquième puissance mondiale quand on voit qu'en fait, la moitié de notre population peut être moins bien payée que l'autre, sans pour autant que ça émeuve grand monde.
Et vous l'expliquez comment, si vous l'expliquez, Fanny Pidou ?
Alors, à l'occasion du 7 mars, l'INSEE a transmis des données. Pendant longtemps, j'ai expliqué sur ce phénomène par le fait que les femmes ne négociaient pas leur salaire à l'embauche. Travaillant dans les ressources humaines, je l'ai fréquemment constaté. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais un peu dans l'erreur, que c'était encore pire que ça. Donc effectivement, elles ne négocient pas leur salaire à l'embauche. Mais c'est au final, tout au long de leur carrière, que l'écart se creuse. C'est la responsable de l'INSEE nous disait, c'est à chaque choix de vie. Donc du coup, quant au premier enfant, il y a un écart qui commence à se creuser. Au deuxième enfant, il y a un nouvel écart. Et au troisième enfant, il fallait même plus en parler parce que là, elles arrêtaient même de travailler pour la plupart.
Donc, c'est ce que vous allez faire.
Ah non,
parce que vous attendez
pas.
Le troisième enfant. Alors, ça se voit pas trop à la radio, mais on le dit. Vous attendez le troisième enfant.
C'est éminent.
C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, ça va peut-être se faire en direct. On verra. Mais plus sérieusement, est-ce que vous envisagez du coup d'arrêter de travailler au troisième enfant, vous personnellement?
Alors,
vous avez pas mal de responsabilités.
Sûrement pas. Et en plus, j'ai une réponse à ça. Je fais, c'est marrant parce que quand j'annonce que je suis enceinte, que je suis au travail ou quelque part. Ou dans ma famille, on me dit « tu vas passer à temps partiel ». Au premier, au deuxième, on m'a demandé si j'allais passer à temps partiel. Au troisième, on m'a demandé « tu vas donc arrêter de travailler ou tu vas arrêter ton mandat ?» J'ai dit « mais c'est marrant, mon mari qui est également engagé, on ne lui a jamais posé la question. On ne nous pose pas la question de qui garde les enfants. Après, on a une organisation, les enfants ils dorment à 8 heures. Du coup, moi je ne suis pas à la maison des fois à 8 heures et inversement. Et c'est une organisation, mais non, je ne vais pas arrêter de travailler parce que pour moi... L'émancipation, il faut se l'appliquer à soi-même aussi, donc il faut que j'aille au travail, et puis ça me plaît.
Voilà, et puis effectivement, comme vous dites, c'est aussi changer les mentalités qui est important aujourd'hui.
Ah oui, changer les mentalités, est-ce que le regard, en fait, il est vraiment... Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit, mais tu vas arrêter, comment tu fais pour gérer tes enfants? Mais cette question-là n'a jamais été posée à mon mari. On lui dit même, tu vas prendre ton congé paternité? Alors que moi, on ne m'a pas demandé si je voulais le prendre ou pas. Moi, c'était une évidence. Mais lui, on lui dit, tu pourrais ne pas le prendre.
Voilà, il y a encore du pain sur la planche.
RCF Loiret, AJ1, 87.9.
Vous Vous écoutez Agora en partenariat avec Maxentre et notre invitée Fanny Pidou, conseillère régionale déléguée à l'égalité femmes-hommes, mais aussi à la lutte contre les discriminations et le handicap. Alors là, on vient dresser le constat, Fanny Pidou, sur ces inégalités salariales. Il y a des lois qui existent. On a vu que les sanctions, finalement, elles ne sont pas assez incitatives. Est-ce qu'il y a plusieurs pistes de travail actuellement au sein de votre parti, le Parti socialiste, ou au sein du conseil régional, justement, pour que les choses changent, tout simplement?
Alors, au sein de mon parti, ça va être...
C'est un peu dur
rapide.
En ce moment. Hein.
Ça, j'allais dire, c'est que on est dans une phase de reconstruction.
Dernières années, est-ce qu'il y a eu des pistes?
La loi égalité citoyenneté dont j'ai parlé de 2014, elle émane d'une réflexion de mon parti. Et c'est vrai que cette loi, elle était très intéressante. Il y avait également les ABCD de l'égalité qui ont été caricaturés. Et du coup, on a abandonné les ABCD de l'égalité. Est-ce qu'en fait, finalement, le constat, il est que on ne va pas changer les mentalités des personnes qui sont aujourd'hui en poste, qui ont 40, 50 ans en responsabilité, et qu'il y a un travail sur l'éducation des jeunes enfants à faire. Et c'était le sens des ABCD de l'égalité. Donc moi, je regrette que ça ait été caricaturé, et j'aurais aimé, en fait, finalement, qu'on aille jusqu'au bout de cette démarche d'éducation des jeunes enfants. J'ai vu que le nouveau gouvernement ne souhaite pas aller dans ce sens-là. Enfin, ne souhaitait pas. Et hier, j'apprenais que finalement, l'éducation était remontée dans les critères. Donc, j'espère qu'il va y avoir des choses du côté de l'éducation. Nous, au niveau du conseil régional, on se dit qu'on peut avoir une responsabilité à jouer au niveau des lycées. Parce que là, mais le problème, il est aussi vraiment chez le jeune enfant. Une fille de 5 ans se sent inférieure à un petit garçon à 5 ans.
Pourquoi ?
Ah ben, parce que l'environnement. Ma propre fille m'a dit à 5 ans, d'ailleurs, je me suis dit, comme quoi les statistiques, m'a dit qu'elle aurait préféré être un garçon parce qu'ils sont plus forts.
Citez-moi, effectivement, on peut comprendre pourquoi, citez-moi un conte de fées où on ne dit pas à une fille ne soit pas une héroïne ou quelque chose comme ça, et à qui on dit à un moment donné... tu auras besoin de l'aide d'un super-héros pour
j'en ai plusieurs, tous les derniers.
Il n'y en a pas. Mais même dans les anciens, il n'y en a pas.
Les anciens, oui, mais là, on voit bien
dans
que
ça bouge un peu. Dans la plupart des contes qu'on lit aux enfants, petite fille ou petit garçon, toujours à un moment donné, la fille a un problème, a un ça, souci, et c'est le chevalier servant qui
vient. Prince charmant.
Le prince charmant. Bon, voilà.
Et du coup, on enferme les petites filles là-dedans. Donc le problème, il est vraiment là. Et les petits garçons, on va valoriser d'autres qualités chez un petit garçon. On va lui dire, ah, c'est bien, tu es fort, tu es costaud. Mmh. Alors qu'une fille, on va dire, ah, tu es sage, tu es belle. Et on va enfermer chacun, en fait, dans des valeurs qui ne sont pas forcément celles qui sont attendues si on prenait que ce soit fille ou garçon. Enfin, moi, je valorise autant la force de ma fille que mon garçon. Ça m'indiffère.
Alors ça nous mène tout droit au sujet suivant, puisque là aussi on peut considérer que ça part de l'éducation, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'on éduque suffisamment les petits garçons au respect des femmes ?
C'est une grande question que je me pose en fait en ce moment, ayant moi-même un petit garçon, je me dis comment l'éduquer pour que plus tard il respecte les filles qui sont autour de lui. Et du coup, j'ai pas de réponse. Enfin, si j'avais la réponse, je pense que je pourrais sauver pas mal de choses. Mais j'ai pas de réponse là-dessus. Je pense qu'il faut que tous on fasse, qu'on se pose la question, qu'on réfléchisse à comment on peut faire pour que nos garçons respectent les filles à l'école, ensuite au travail et de tout au long en fait de la vie. Et ça, c'est vraiment ma problématique.
Vous estimez que la réponse, elle doit être individuelle et collective ?
Totalement. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est à la fois de l'environnement familial et à la fois il y a une responsabilité du collectif. L'éducation nationale, dans éducation, il y a éduquer. Donc du coup, éduquer, c'est pas que apprendre à compter et à faire des maths. C'est aussi apprendre à vivre ensemble.
Le 7 mars, la veille de cette journée internationale des droits des femmes, il y avait une conférence de presse avec l'INSEE et la préfecture Centre-Val-de-Loire, une conférence de presse à laquelle vous avez participé, où ont été présentées notamment une étude sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On sait que dans les milieux intellectuellement supérieurs, il y a des problèmes d'égalité hommes-femmes, mais il y a des personnes qui sont plus à même, plus capables, des fois plus formés, qui ont plus de moyens de dénoncer ces choses-là, d'aller porter plainte quand il y a besoin ou de négocier son salaire, machin, etc. On sait que dans les quartiers, dans les milieux plus populaires où c'est plus difficile, c'est encore plus compliqué et il y a même ça a tendance à même se banaliser, c'est-à-dire parfois même ça va jusqu'à l'utilisation de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Bah ça fait partie d'un mode d'expression et finalement tout le monde s'en accommode. Les hommes sont pas forcément très cool avec les femmes. Je le dis de manière très enveloppée, hein, parce que je pense à d'autres mots, mais voilà, et du coup les femmes se laissent plus faire, alors que ce sont les chevilles ouvrières de tout ce qui se fait dans le milieu domestique.
Alors sur quand on dit elles sont chevilles ouvrières de milieu domestique,
non
du
mais
coup,
éducatif
on...
aussi hein, oui, c'est pas c'est péjoratif
ça.
Dans ma
non non mais je comprends ce que ça veut dire.
Non
mais parce que du coup après on reprojette des schémas.
Je ne suis pas en train de faire l'apologie des femmes
non,
à la maison et des hommes au travail ou au bistrot.
La réflexion
ça reste une réalité avec notamment ce concept récent de charge mentale.
Oui, c'est la charge mentale, effectivement les femmes c'est 1h30 je crois de travaux ménagers supplémentaires par jour pour les femmes. L'exclusion territoriale, alors ça vous faites bien de mettre le doigt sur cette question. Au niveau régional, on fait un plan sur l'égalité, mais un plan assez global sur la question d'égalité. Et tout de suite, il nous est venu à l'idée de dire on est sur les discriminations, sur le handicap, l'égalité femmes-hommes, mais il y a aussi l'exclusion territoriale. Et c'est aussi une des causes des inégalités. Et au final, on arrive sur le cumul des différentes causes de discrimination. Et dans nos quartiers prioritaires, ou aussi bien en ruralité, il y a des gens qui n'ont pas accès aux outils pour pouvoir s'en sortir ou en tout cas revendiquer des droits. Ils n'ont pas accès à tous les outils, aux services publics, ils n'ont pas accès, que ce soit du fait de la formation ou du fait du manque d'accès. Et donc on creuse encore plus les inégalités dans certains secteurs. Et donc c'est vraiment une priorité quand on est en responsabilité publique que d'aller regarder ce qui se passe. Et effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Tout à l'heure, je vous disais, c'est à chaque choix de vie, à chaque enfant pratiquement que le salaire se creuse. Les femmes issues de ces quartiers, elles ont des enfants très tôt en fait. Et ça faisait partie des critères. Elles ont vers une vingtaine d'années, là où en fait traditionnellement on dit vers 28, 29, 30 ans, c'est l'âge du premier enfant. Là on est dans des quartiers où finalement on a un plus faible niveau d'études et en plus on est sur des enfants plus tôt. Et en plus, vous êtes sur des secteurs d'activité, parce que c'est là où aussi les inégalités se creusent. C'est que finalement, les femmes, elles vont s'interdire des métiers. Mmh. Elles vont aller, ces femmes-là, elles vont aller. On avait 12 métiers. On est sur du temps partiel, on est sur du société de service, on est sur des femmes de ménage, ouais. Et du coup, on est sur des salaires moindres. C'est peu importe la nature de l'emploi, c'est le salaire qui est derrière. Et souvent, alors on ne sait pas si c'est comme l'histoire de la feu de la poule, si c'est parce que c'est un métier féminisé qu'il est moins bien payé ou parce que finalement il est moins bien payé parce que moins valorisé. Et alors souvent, c'est un peu des deux quand même. Hein.
Qu'est-ce qu'on met en place en tant que conseillère régionale déléguée à l'égalité femmes-hommes, justement pour casser un peu cette logique ou cette reproduction ?
Alors nous, au niveau de la région, dès qu'on a été élus à la dernière mandature, on s'est dit voilà, l'égalité c'est une affaire de tous. On nous a mis avec la loi NOTRe des responsabilités plus importantes sur les questions d'égalité quand on parle d'aménagement du territoire ou d'économie. On va dire, on va prendre le sens au mot global et on a une... En général, la région est considérée comme un pilote sur beaucoup de politiques publiques. Donc nous, on s'est dit, on va prendre plusieurs partenaires autour de nous. L'égalité, ça nous parle beaucoup, enfin, en tant que dans nos engagements propres, suite aux élections, ça fait partie des thématiques sur lesquelles nous on travaille. Donc on s'est dit, on va faire un plan, mais un plan global. Parce que si on fait juste un plan égalité femmes-hommes, vous allez être stigmatisé par une partie de... Il y en a encore qui rigolent sur ces questions et qui nous disent, oh, vous avez déjà fait des efforts, vous avez le droit de vote, c'est déjà pas mal. Puis regardez, vous êtes là, donc c'est déjà qu'il y a eu des efforts. Alors, si on prend les uns après les autres, du coup, il y a toujours des gens qui sont réticents. Si on a une approche assez globale de la question, eh ben, on va pouvoir emporter plus de monde. Et en plus, du coup, on a décidé de faire un collectif avec plein de partenaires, plein d'associations. Et on se réunit à peu près tous les mois ou deux mois. Et on est en train, en ce moment, de rédiger un plan qui sera voté en juin.
Parce que la joie nous rassemble.
RCF, la joie se partage.
C'est toujours Agora sur RCF Loiret en partenariat avec Maxentre et nous sommes en compagnie de Fanny Pidou, conseillère régionale déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations et le handicap. La parole des femmes aujourd'hui, elle s'est libérée, on l'a vu avec les hashtags Dénonce ton port, MeToo. Est-ce que vous pensez que vraiment il y aura un avant et un après, Fanny Pidou?
Alors, quand la parole des femmes s'est libérée, moi j'étais soulagée, je me suis dit chouette, enfin on ne décrédibilise plus la parole des femmes. Je me suis dit enfin on la prend sérieux, parce que souvent on pensait que ces femmes étaient affabulatrices ou en rajoutait.
Voir qu'elle l'avait un peu cherché.
Oui, alors elle l'avait un peu cherché. Ça c'est sur les tailles des jupes des filles.
Pas que, mais effectivement.
Ouais. Et du coup je me suis dit c'est bien. Alors, sujeuse, du coup, c'est embêtant, c'est que je disais, on a un peu inversé la charge de la preuve, c'est-à-dire que du coup, on dit, la femme, on prenait sa parole spontanément comme la vérité. Après, on n'avait pas eu les premiers procès, donc du coup, on ne sait pas comment le juge l'aurait.
Un tweet, c'est pas une plainte, instruction, c'est pas une preuve.
Voilà. Donc du coup, on n'a pas encore les premiers procès qui sont issus, les premières décisions de justice issues de cette libération. Maintenant, je m'étais dit, le risque, ça avait été de la même chose pour les paroles des enfants. C'est le moment de la première affaire où on aura la remise en cause de la parole de la femme. Et là, ce dernier mois, on a eu 3 affaires, 2 ministres et un prêcheur musulman.
Tariq Ramadan, oui.
Et du coup,
intellectuel musulman.
Et du coup, sur ces 3 affaires, là, on a commencé à remettre le doute sur la parole de la femme. Et du coup, je me suis dit, c'est pas encore ancré. Il faut que ça dure, il faut qu'on arrive à pérenniser la libération de la parole de la femme. Et qu'on arrive à dire que quand les femmes, elles vont porter plainte, c'est pas une partie de plaisir. Elles y vont pas pour... Ça fait rare, on ressort rarement content d'un dépôt de plainte. Donc du coup...
Oui, je crois que vous avez une anecdote personnelle à ce sujet.
Alors moi, j'ai déposé plainte pour des menaces de viol dans le cadre de mon mandat. Et au bout de 2 heures de plainte, déjà au bout de 5 minutes de plus, je renonçais à porter plainte parce que j'ai subi une pression assez forte des officiers de police judiciaire présents pour ne pas déposer plainte.
Pourquoi ?
Parce que il y avait marqué « Voulez-vous monsieur le ministre vous viole ?» Et du coup, c'était assimilé à une formule de politesse. Donc, ils m'ont dit « Voyez, c'est pas si grave que ça. » Alors que moi, je dis « Bah si, c'est grave. » Mais du coup, eux, ils disaient que c'était pas forcément, la menace n'était pas forcément caractérisée. Et en même temps, c'est un droit pour tous de pouvoir porter plainte. Après, c'est le procureur de la République qui fait suivre la plainte ou pas, ou qui la classe. Mais c'est pas au commissariat de juger de la pertinence d'une plainte.
Donc, le conseil que vous pouvez donner, c'est une plainte qui est refusée au commissariat, on va directement au palais de justice.
On va au palais de justice parce que quand une plainte n'est pas accueillie au commissariat, le procureur peut lui recueillir. Alors j'ai même des avocats qui me disent sinon il faut aller dans une autre brigade, dans un autre commissariat. Mais après je leur dis, enfin, vous rendez compte, vous êtes à la fois victime et vous devez faire le tour de toutes les personnes qui pourraient être volontaires pour prendre votre plainte.
Est-ce que cette libération de la parole des femmes sur les réseaux sociaux, hein, essentiellement dans un premier temps, est-ce que c'est pas déjà pour certaines d'entre elles le plus important, c'est-à-dire d'avoir dit qu'il s'était passé quelque chose, toutes les femmes je crois, vous allez me dire si je me trompe ou pas, ne souhaite pas forcément cette juridiciarisation derrière.
Et toutes les femmes.
Le premier élément et qui est le plus important, c'est la libération de la parole. C'est de dire,
toutes
il
les
s'est
femmes
passé
n'ont
ça,
pas
prenez-moi
donné,
au sérieux.
Toutes les femmes n'ont pas donné le nom des personnes dont elles ont été victimes. Elles ont juste voulu dire aussi, ça existe et c'est beaucoup plus fréquent qu'on vous le dit. Et c'est plus possible qu'au travail, je me fasse tripoter par un de mes collègues. C'est plus possible que quand je prenne un transport collectif, je sois une victime potentielle, collée, frottée et tout ce genre de choses désagréables. Donc oui, elles n'ont pas toutes donné les noms, elles n'ont pas toutes voulu porter plainte, mais elles ont voulu dire que ça existe et qu'il ne fallait pas le minorer. Parce que souvent, on dit « Ouais, mais c'est pas tout le monde. » C'est facile. Enfin, ce qu'on n'avait pas l'impression. Moi, quand j'ai parlé de mon affaire, j'ai un conseiller régional de l'opposition qui m'a appelé et qui m'a dit vraiment Déjà, il m'a demandé comment j'allais. Il m'a dit que ça devait être dur. Donc, c'était déjà très sympa de sa part. Il m'a dit, je savais pas que c'était à ce point-là. Vraiment, bon courage. Et enfin, vous imaginez, quand vous êtes dans un environnement politique, ça arrive aussi, quoi. Donc, voilà.
Avec ou sans les fleurs, avec ou sans le chocolat, ça arrive aussi.
Voilà. Donc, on voit que les choses avancent malgré tout. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Fanny Pidou, d'être venue au micro de RCF Loiret. Donc, je rappelle que vous êtes conseillère régionale, déléguée notamment à l'égalité hommes-femmes. Merci beaucoup, Frédéric Sabourin.
Merci à vous.
Merci à vous.
Voilà. Et cette émission est à retrouver, bien sûr, en podcast sur RCF. Ou sur le site de Maxentre, c'est simple, vous tapez maxentre.fr. Bon appétit à tous!